Radio Barque, donc 21e, 3e partie, avec comme invité Guillaume Heras, donc, que nous connaissons, puisque maintenant, Guillaume, vous êtes un petit peu un habitué de ce micro. Et vu vos responsabilités, donc d'une part maire de Saint-Marcel et responsable de l'environnement et notamment de la politique des déchets au Grand Narbonne, eh bien, c'est un sujet d'abord qui est important. Je crois que c'est un des gros budgets du Grand Narbonne et puis qui est très évolutif.
Oui, effectivement. Bonjour à tous les deux. Le budget de la gestion et de la collecte des déchets, c'est un budget de 26 millions d'euros en fonctionnement et entre 3 et 5 millions d'euros selon les années en investissement. Et puis voilà, moi j'aimerais parler de du quotidien. Hein, donc on entend là régulièrement que le plastique est devenu au niveau mondial
une grosse préoccupation.
Et nous, effectivement, sur l'agglomération du Grand Narbonne, depuis le 1er janvier, nous avons procédé à l'extension des consignes de tri. C'est une révolution au niveau du tri sélectif, c'est-à-dire que maintenant, on ne réfléchit plus, si j'ose dire, est-ce qu'on met le pot de yaourt, est-ce qu'on met l'emballage du jambon dans la poubelle. Du moment que c'est un emballage, on le met dans la poubelle jaune. Et donc ça permet de ne plus se poser de questions, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 5 ans au niveau de l'agglomération, c'est de simplifier les consignes de tri pour pouvoir plus trier derrière. Alors effectivement, c'est rendu possible cette extension des consignes de tri parce que nous avons mis à niveau les équipements industriels
faire le boulot.
Nous avons investi sur les chaînes de tri, et je dois dire que on est sur une très bonne dynamique. Nous sommes au-dessus des moyennes nationales et régionales, nous, les habitants du Grand Narbonne, sur le geste de tri. Nous sommes bons trieurs et nos déchets ont de la valeur. C'est le projet de territoire que nous avons travaillé au niveau de l'agglomération, hein, sur le développement durable, sur la croissance verte, la transition énergétique, et nos déchets ont de la valeur parce que ces déchets recyclés permettent d'avoir une deuxième vie. Le verre, s'il est enfoui, s'il est jeté dans votre container à ordures ménagères, il ne va jamais se dégrader. Alors que si vous le triez, il sera...
ça refera du verre.
À l'infini. Mm-hmm. À l'infini. Et le plastique, c'est la même chose. Et donc, voilà, on a maintenant des gestes facilités sur tout le territoire. On a un réseau de déchetteries important, 18 déchetteries sur le territoire. Je ne comprends pas les gens qui ne trient pas, et je félicite maintenant les gens qui trient de plus en plus et qui nous permettent de nous positionner au niveau au-delà des moyennes nationales et régionales. Mais ça ne suffit pas. Mmh. Voilà, la planète en a besoin, et donc j'invite tout le monde, à trier. Et puis pour faire la transition, peut-être parlerez-vous des problèmes climatiques que nous avons vécu le 15 octobre.
Oui, bien sûr, mais ça on va y revenir parce que ça concerne peut-être plus particulièrement, Guillaume Heras, votre commune. Mais pour cette extension justement du tri pour permettre à l'utilisateur, au consommateur, de pratiquement tout mettre dans les containers jaunes, est-ce que l'équipement Écopole Suez était l'équipement qu'il vous fallait pour assumer cette décision ?
Non, il fallait investir dessus, et il y a eu un choix d'investissement sur une chaîne de tri de CSR, combustible solide renouvelable, c'est-à-dire que tous vos encombrants que vous amenez en déchetterie sont triés, broyés et créent du combustible qui vont pouvoir être utilisés en circuit court pour de grandes chaufferies, pour l'usine Lafarge pour créer du ciment, etc., plutôt que d'importer de l'extérieur des combustibles et les utiliser à partir des déchets. Ça, c'est le premier
investissement. Donc ça se fait à cet Écopôle Suez.
Il se fait à l'Écopôle Suez, à Lambert, et il est porté par le Grand Narbonne pour avoir un rayonnement départemental. Et pour l'équipement, pour trier, pour le tri sélectif et pour pouvoir recycler tout ce plastique, etc. Nous avons conventionné avec le Covaldem, qui est l'organe carcassonné de gestion du tri. Et donc nous avons chacun investi dans une usine de tri avec deux caractéristiques différentes, mais avec une portée départementale. Donc nous échangeons nos déchets. Et là, dans la structuration politique des investissements, nous faisons des économies et nous avons un rayonnement industriel beaucoup plus efficient.
Oui, alors voilà, non pas une fusion de communes, mais voilà quand même une mise en commun, une sorte de mutualisation d'équipements différents. Oui, alors je disais, Guillaume Heras, donc vous êtes maire de Saint-Marcel. D'ailleurs, quand on est vice-président d'une communauté d'agglomération, c'est qu'on est aussi maire en général d'une commune. Vous faites, alors on va commencer peut-être par le rôle du maire aujourd'hui, parce que ça aussi c'est très controversé et difficile à peut-être assumer. Et il n'y a pas très longtemps, nos confrères de la presse écrite interrogeaient un certain nombre de maires. Beaucoup se disaient pessimistes, pas très enclins à se représenter. Et alors vous, qui étiez aussi interviewé, vous faisiez partie des quelques maires, je ne sais pas si je peux dire heureux, mais en tout cas pas malheureux.
Optimiste, c'est certain. C'est peut-être parce que je suis dans les premières phases de mon expérience de maire. Je suis élu par mes pairs depuis 2012. Je suis aussi dans une commune qui est dynamique et qui a été bien gérée avant moi, donc qui nous permet d'avoir de l'ambition sur nos investissements. Vous parliez d'ailleurs, je suis surpris, vous parliez de la dynamique et d'une commune qui se développe. En termes démographiques, on a souvent l'impression que Saint-Marcel explose, mais pas du tout. On est sur le cadre d'1,5% par an depuis plusieurs années. Alors effectivement, il y a 20 ans, Saint-Marcel, c'était 1500 habitants. Aujourd'hui, on est à 2000. Il y a un tissu économique fort. On a de grandes marques de distribution, mais aussi des petits commerces qui ont investi notre nouveau centre-ville et qui permettent d'avoir un commerce de proximité. Tout ça vit bien ensemble. Voilà. Donc la tâche de maire aujourd'hui, je crois que éventuellement la difficulté est peut-être d'être un couteau suisse, donc sur de multiples tâches qui sont de la compétence de la commune ou de compétences confiées. Je pense de fait et logiquement, quand vous parlez d'eau et d'assainissement, à hauteur de 2000 habitants, on n'a pas vocation à gérer une station d'épuration, oui, avoir un ingénieur qui gère la qualité de l'eau, qui gère de grands travaux, etc.
Donc logiquement, c'est le Grand Narbonne, c'est l'agglomération.
Voilà, groupé, on est plus fort sur ce type, sur la gestion des déchets. Effectivement, chaque commune avait son traitement, sa collecte, mais aujourd'hui, à hauteur, je trouve qu'on a le bon périmètre, à hauteur de 37 communes, on peut garder notre liberté et notre décision de type de gestion, mais ça nous permet de mettre des moyens en commun. Et le service environnement du Grand Narbonne, c'est 220 employés, c'est aussi une délégation de service public pour la collecte sur Narbonne, c'est aussi une délégation de service public sur le traitement des déchets, et voilà, on est sur des problématiques à grande échelle.
Vous démontrez clairement là que l'agglomération, ça sert à quelque chose, Guillaume.
L'agglomération a du sens, mais l'échelon local a du sens
en
aussi
a encore, oui.
Sur la proximité, déjà pour la démocratie, pour faire parler, pour porter les voix locales, les décisions locales. Au niveau d'un village sur l'urbanisme, certains villages font le choix de grandir, d'autres de rester à leur taille. Et les équipes municipales portent la sensibilité des personnes qui les ont élues.
C'est ça. Et vous nous aviez déjà expliqué que croître, oui, mais raisonnablement.
Ah, je suis quelqu'un qui croit que la richesse est dans l'équilibre, et que, et c'est qu'il faut rester modéré, et ça n'empêche pas d'être ambitieux. Donc effectivement, Saint-Marcel, voilà, j'ai cette motivation, mais elle m'est donnée aussi par des associations dynamiques, par des acteurs qui font beaucoup de choses, et effectivement ça bouge à Saint-Marcel.
Oui. Dans une autre interview de nos confrères de la presse écrite, aussi au moment de Noël, je pense, au moment des vœux finalement, parmi vos vœux, il y avait passer plus de temps, je cite, passer plus de temps à discuter avec mes administrés. Vous y arrivez quand même ?
Oui, je sais.
Parce que ça reste le rôle du maire, ça.
Ça reste le rôle du maire. Alors déjà, par la disponibilité sur les rendez-vous, je crois que le rôle de maire, c'est de recevoir tout le monde avec son équipe, et puis entendre tous les sujets, et puis avoir une écoute bienveillante. Alors, on n'amène pas des solutions à tout. On ne peut pas dire oui à tout, parce que soit on n'en a pas les moyens, soit on n'en a pas les idées. Mais en tout cas, trouver des solutions, accompagner. On est régulièrement sollicité pour de l'emploi, pour du logement, pour des projets économiques. Et souvent, on m'interpelle sur ça doit être difficile de gérer les conflits de voisinage. Je suis pas interpellé souvent sur des conflits de voisinage. Bon. De temps en temps, voilà, on amène cette modération, on cherche des solutions, mais la vie d'élu est passionnante.
Voilà, vous voulez rassurant quand même. Alors, nous restons sur Saint-Marcel. Tiens, à propos, vous avez un carnaval ?
On a un carnaval, on a une association qui porte ce carnaval, qui a fédéré d'autres associations, qui travaille avec d'autres villages. Et c'est j'ai un fils qui a 4 ans, et quand il va au carnaval, je trouve formidable de voir l'étincelle qu'il a dans
les yeux. Vous voyez pétiller ses yeux.
Exactement, exactement. Mais c'est grâce à une association dynamique qui compte pas son temps, qui toute l'année prépare des chars, fait des fleurs, qui le fait avec la garderie de l'école, qui le fait avec la maison de retraite, qui le fait avec les acteurs du territoire. Voilà, le carnaval, c'est 4 heures de bonheur pour 365 jours de travail.
Voilà, mais c'est à l'échelle de la commune, pas du Grand Narbonne, mais de Saint-Marcel.
Bien sûr.
Vous le brûlez, ce carnaval ?
On le brûle.
C'est Michel Santo qui va être content.
Tradition qui se perd malheureusement.
Voilà. Et alors, parmi vos grands projets, il y avait, alors vous aviez repris il y a quelque temps la CAF coopérative dans des vues de transformation, d'amélioration, de création. Vous êtes en train aussi de créer une maison médicale municipale. Ça, c'est un des grands défis aussi qui touche les communes. La, je cite, désertification médicale. À Saint-Marcel, où en êtes-vous à ce sujet-là ?
Les travaux seront finis en septembre. Le bâtiment est en train d'être rénové. C'est l'ancienne chaufferie donc liée à la cave coopérative et à notre passé viticole. C'est pour ça que nous avons souhaité non pas détruire ce bâtiment, mais lui donner une destination. Je trouve que le clin d'œil d'ailleurs est assez sympathique, à côté du restaurant la distillerie. Bien sûr, il y a une difficulté, et 36 000 communes cherchent des médecins généralistes. Donc notre rôle en tant que conseil municipal et maire est de se dire comment allons-nous
créer
les conditions de la venue d'un médecin généraliste. Alors on est parti du constat que nous étions attractifs ici dans le sud de la France. Nous avons fait un deuxième constat, c'est de faire un projet communal, parce que nous ne sommes pas du tout dans une vision intercommunale hégémonique. Non, c'est pas du tout ça. C'est, on a un projet communal qui s'inscrit dans des projets aussi communaux de voisins. Salelles a un projet, Saint-Nazaire a un projet, Marc-Aurignan a un projet, et c'est grâce à ça qu'on est attractif. C'est parce que ils vont pouvoir entre experts médicaux, entre généralistes, s'insérer dans des projets de mes voisins qui aussi ont pris conscience que dans quelques années nous n'aurons plus de généralistes, et c'est un service à la population. C'est pour ça que je crois que nous avons cette responsabilité d'anticiper le futur et de créer ce centre médical.
Oui, voilà. C'est encore une fois, c'est un défi qui touche beaucoup de maires, beaucoup de communes. Une remarque, Michel ?
Une remarque, parce que entre Moussan et Saint-Marcel, il y a un centre médical. qui est en grande difficulté. Parce qu'il y a une grande difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à trouver, effectivement, de successeur.
Alors, l'avis de,
pas à égale distance, mais presque, quoi, en fait. Hein. Bon. Alors, comment se fait-il ? Alors que ce centre médical, la probabilité, s'il ne trouve pas un repreneur, l'actuel propriétaire, ils sont deux, quoi, deux médecins, parce qu'il n'arrive pas.
Oui, alors.
C'est la disparition pure et simple à la fois de la pharmacie, effectivement, et des médecins.
Alors, monsieur le maire.
Comment expliquer que, bon, on n'arrive pas à trouver des médecins, on n'arrive pas à maintenir, en fait, un centre
comme ça. Alors, réponse de monsieur le maire.
Il y a beaucoup déjà de Saint-Marcellois qui vont à Marc-Aurignan et c'est un centre.
C'est Marc-Aurignan
qui n'est pas en difficulté. J'ai rencontré le docteur Bekassi.
C'est un centre privé.
C'est un centre privé. J'ai rencontré le docteur Bekassi dans la semaine, qui est à la retraite, mais propriétaire du centre, qui m'a d'ailleurs expliqué sa formidable expérience et le démarrage du projet et qui avait bien compris que le centre de Saint-Marcel ne se mettait pas en compétition avec nos voisins, mais qui pouvait être un atout et pour Marc-Aurignan et pour Saint-Marcel. Il n'est pas en difficulté dans le sens où il y a deux généralistes, où il y a des kinés et où il y a déjà des professions médicales qui sont présentes. D'ailleurs, le docteur Bekassi, je pense, va communiquer bientôt et avait été peiné peut-être d'entendre que le centre était en difficulté. Effectivement, il n'y a pas pléthore de médecins généralistes et il est difficile d'en faire venir, mais il y a une offre médicale qui est quand même bien présente et qui appelle à se développer encore sur le centre.
Alors, voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre, en quelque sorte.
Ce qu'on s'est permis, parce que ce que je dis là, en fait, je ne l'ai pas inventé, c'est le docteur Julien lui-même, c'est-à-dire l'associé, en fait, ils sont deux, en fait, propriétaires du centre, qui est venu, en fait, m'expliquer, en fait, toutes les difficultés. Et donc, l'action là, bon, il y a toute une série de maisons qui secrets autour qui vont nécessairement demander des médecins, alors que même il y a un centre qui lui-même n'arrive pas à trouver des médecins.
Bon.
Mais l'intérêt de la profession, c'est aussi de rassurer les nouveaux arrivants. Un médecin généraliste qui arrive et commence sa carrière doit créer une patientèle, n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Les recruteurs que nous avons sollicités m'ont posé la première question, c'est est-ce que vous avez des structure médicale autour qui pourrait rassurer quand il y a des vacances, quand il y a un arrêt, et est-ce qu'il y a des urgences, etc. Donc moi je crois dans la cohérence et dans le maillage le travail ensemble.
Il s'agit d'un maillage. Alors Guillaume Heras, donc maire de Saint-Marcel, une commune qui de temps en temps souffre d'un problème récurrent comme d'autres, inondation. Je crois d'ailleurs, un peu pour l'anecdote, la dernière fois que vous étiez à ce micro, c'était en octobre. Peu de jours après, vous deviez partir, si je me souviens bien, pour un voyage professionnel en Afrique du Sud. Et vous nous avez raconté qu'à peine arrivé là-bas, vous avez reçu un coup de fil en vous disant « catastrophe, il faut revenir à Saint-Marcel ».
En allumant le téléphone, en sortant de l'avion, Aude était prête à déborder, donc... Je suis sorti de l'avion et j'ai cherché un billet pour rentrer et bien heureusement, je disais, quand on est groupé, on est plus fort. Voilà, une belle équipe à Saint-Marcel et autant d'élus qu'employés, mais aussi de bénévoles. Voilà, nous avons pu passer. Et puis j'aimerais ici aussi souligner la force et la dignité des personnes qui ont subi les inondations. Hein. Les inondations, elles nous ramènent à l'humanité chaque fois qu'elles arrivent. Et puis les inondations, c'est pas uniquement de l'eau qui monte à un certain moment. Hein. C'est de l'eau qui arrive, qui arrache tout. C'est de l'eau qui nous met en danger sur nos déplacements. C'est de l'eau qui met en danger les services de l'ordre, les pompiers. Voilà. Donc je souligne le travail aussi, les services du département, les gendarmeries, etc., qui se groupent dans ces moments-là.
Ça reste 15 donc octobre. Un phénomène traumatisant pour tout le monde.
C'est un phénomène traumatisant, c'est un phénomène pour les élus qui amène à l'humilité, à la prudence, à l'approche de nouvelles urbanisations.
Hein, voilà donc, justement, et alors ça c'est le passé, à chaque fois on pose la question, l'avenir, par exemple, certains disent il faut que certaines communes apprennent, je cite, à vivre avec le risque ou développe la culture du risque. Est-ce que c'est le cas pour Saint-Marcel après tout?
Il y a alors une depuis 99, les choses ont. Il y a une commune. Il y a avant 99 et après 99. Oui,
parce qu'il y a une commune célèbre dans le monde qui est inondée régulièrement, c'est Venise, et qui a l'air de s'en sortir pas trop mal. Alors, quid de Saint-Marcel, Guillaume Heras?
La culture du risque, c'est un plan communal de sauvegarde. Ce sont des rôles identifiés, mais on n'attend pas les inondations pour ouvrir les dossiers et puis pour savoir ce qu'il faut faire en cas d'inondation. Donc ce sont des tests d'alerte tous les ans, ce sont des revues de procédure, ce sont un mois après le 15 octobre des réunions dans les bureaux. Alors bien sûr ça se voit pas, mais ce sont des élus et des techniciens qui se sont rencontrés pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans l'alerte, voilà. Et puis c'est aussi se projeter sur comment on peut réduire.
Oui,
ce
c'est
risque.
Ça. Voilà. Puisque alors, c'est traumatisant, autant que ça le soit, le moins possible.
Il y a de formidables aménagements qui se sont faits sur notre territoire, de mise en protection de population. Salelles, qui a été protégée de la sèche.
Qui s'en est bien tiré cette fois-ci.
C'est extraordinaire.
Seulement, ça a coûté très cher.
Je ne me prononcerai pas sur la protection d'un village de 3000 habitants avec une digue de 5 millions d'euros. Bon, voilà.
Est-ce qu'un projet semblable ou proportionnel est envisagé?
Moi, je ne suis pas expert en protection des inondations. Je sais que Cuxac a été protégé par des digues. Salelles l'a été. Je veux tordre le cou à une rumeur. Les digues de Salelles n'ont pas d'impact sur Saint-Marcel. Les digues de Salelles protègent la Cesse.
Mais pas
d'impact négatif sur Saint-Marcel. Voilà. Ce qui a un impact, c'est le canal de jonction et qui fait digue et qui, après 99, a été rabaissé. Il a été rabaissé et il s'est mis en service d'ailleurs sur cette inondation, il s'est mis en fonctionnement et a permis l'évacuation des eaux. Cuxac a été protégé et en 99, après la visite de Nini Olin, il avait été décidé après étude que le canal de jonction serait rabaissé, qu'il y aurait un déversoir et que ce déversoir, une fois que Cuxac serait protégé, serait étudié à nouveau. Et depuis que les digues de Cuxac sont là, donc c'est pas au lendemain du 15 octobre que le conseil municipal et moi-même de Saint-Marcel demandons cette étude. Nous la demandons depuis que les digues de Cuxac sont finalisées. Et nous avons eu gain de cause après les inondations, une étude de modélisation avec les éléments nouveaux, le canal de jonction, les digues de Cuxac, va être lancé dans le plan d'aménagement de prévention des inondations. Alors, c'est une petite victoire de dire qu'aujourd'hui, repasser du temps et des scientifiques vont venir avec des logiciels de modélisation pour voir comment on peut atténuer ce risque sur Saint-Marcel. Nous sommes dans un environnement, c'est le passage le plus étroit de l'Aude. Donc, moi, je ne vais pas créer, d'attente formidable qui dirait que Saint-Marcel va être protégé. Comment peut-on atténuer le risque?
Il est en tout cas, on va conclure là-dessus. Merci Guillaume Heras. Il est en tout cas utile pour les habitants de la commune de savoir qu'il y a un travail qui se fait, mais qui prendra forcément un certain temps.
Et nous sommes tenaces.
Oui. Le prochain invité de Radio Barque, ce sera le maire de Narbonne, Didier Mouly, et puis un petit peu plus tard, nous continuerons notre perspective sur, disons, le Grand Narbonne et toutes les communes de l'Est-Audois. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.